Je salue une fois de plus toute l'assistance. Je salue tout particulièrement effectivement nos invités, Madame l'adjointe au maire, directrice aussi de l'administration pour la préfecture d'Île-de-France. Je salue bien évidemment mesdames et messieurs les pasteurs, je salue les représentants, bien évidemment, des autres cultes qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Et je vous salue tous, bien évidemment, chers amis, sans lesquels toutes ces manifestations n'auraient pas beaucoup de sens. Alors avant que je vous fasse subir ma petite allocution, avant que vous n'entendiez l'adjointe au maire, avant que vous n'entendiez la représentante du ministère de l'Intérieur, notre ami le pasteur Florence Thomann veut juste faire une petite annonce à caractère réjouissant.
Merci Philippe. D'abord, je dis toute ma joie d'être ici ce matin avec vous tous. Oui, je tenais à prendre la parole pour dire qu'il y a un grand événement aussi qui va avoir lieu le lundi 24 octobre. L'amitié judéo-chrétienne de France, donc que je préside maintenant depuis 3 ans, remet chaque année un prix à une personnalité chrétienne ou une personnalité juive. Et cette année, c'est le pasteur Alain Massini qui va recevoir donc ce prix de l'amitié judéo-chrétienne pour son travail dans le dialogue entre juifs et chrétiens et pour sa participation donc au document Église-Israël, hein, qui est un document justement de dialogue théologique entre juifs et chrétiens. Et l'unique protestant à avoir reçu cette distinction pour l'instant était le professeur Fadiaïdovski, qui a maintenant pas loin de 100 ans et qu'il avait reçu en 2000 pour son beau livre « La déchirure de l'absence ». Voilà, je voulais simplement le dire. Donc ce sera au Saint-Esprit, rue Roquépine, le lundi 24, à partir de 18h. Il y aura beaucoup d'allocutions très intéressantes ce soir-là.
Merci Florence. J'ajoute que nous saluons aussi nos amis de l'ambassade du Danemark et d'Allemagne. Alors nous avons placé ces manifestations du bicentenaire sous le signe de la cité. Et c'est donc tout naturellement un culte de la cité qui vient l'éclore. Ce n'est pas un culte fondamentalement différent des autres, car ils sont toujours ouverts à tous les membres de la cité. Mais aujourd'hui, nous le marquons un peu plus fort et nous le proclamons. L'oratoire est dans la cité et s'inscrit dans l'espace. En ce sens, nous avons reçu un formidable cadeau. La beauté de notre ville et la beauté de cette église. Nous sommes ici dans le cœur palpitant de Paris et donc, d'une certaine manière, de la France. Je crois au fait qu'il y a des lieux plus vibratoires que d'autres, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours facile à gérer, ce qui implique une certaine force qu'il faut apprendre à maîtriser. Toute l'histoire de ces 2 siècles indique la force des mouvements d'idées et des actions qui ont été entreprises ici. L'oratoire est dans la cité et dans l'espace. L'oratoire est aussi pour la cité et s'inscrit dans l'histoire et dans le temps. Je pense à ce mot de Peggy, « Il est beau de mourir pour les cités charnelles » car elles sont à l'image de la cité de Dieu. Peggy, engagée politiquement du côté du peuple, Dreyfusard, patriote et catholique. Il y a des alliages qui inspirent le respect. La mort de ces jeunes hommes de la guerre de 14 a été tout à la fois scandaleuse et admirable de courage, les deux à la fois. Et c'est sans doute un manque de générosité et de sens de la vérité que de vouloir recoller les morceaux éclatés de la réalité dans un petit discours unificateur. Nous saluons à cette occasion les copains dont les noms sont inscrits ici, les copains oratoriens de Peggy. Nous avons beaucoup d'admiration et d'affection pour eux. Engagement pour la cité. L'exposition le montre, je crois, et vous le lirez facilement dans la grande sacristie. Engagement dans l'action sociale, dans la promotion de l'enseignement. Faut-il redire ces vérités simples et fortes, celles-là même qu'on a toujours tendance à oublier? Les réformateurs ont d'abord été des chercheurs de Dieu, mais aussi des intellectuels et des enseignants. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont su et qu'ils ont pu ouvrir la voie, pas seulement dans le temps de leur petite vie, mais pour la suite et pour l'histoire. Une paroisse, c'est un laboratoire. Je vous signale que c'est aussi le nom du blog, du site de l'oratoire, qui est un site extrêmement vivant et développé. Donc, pas simplement un témoignage du passé, mais un laboratoire de l'avenir. Vous croyez être dans un temple où l'on rend les oracles de la divinité, vous êtes en fait, d'une certaine manière, au centre d'une centrifugeuse qui nous propulse dans la cité. On vient prendre une gorgée d'eau fraîche le dimanche. Rassurez-vous, il nous arrive de boire du vin, et de plusieurs manières d'ailleurs, et l'on repart à la bataille au cœur de la vie. Présence et engagement dans la cité, présence et engagement pour la cité. Il reste une dernière question, qui est celle de savoir si nous sommes de la cité. Parler de culte de la cité, ce n'est justement pas rendre un culte à la cité. Les premiers chrétiens se manifestèrent notamment dans le refus de se soumettre au culte impérial. Et même si dans l'histoire les chutes sont toujours possibles, la foi chrétienne devrait toujours être accompagnée d'un refus absolu, d'une allégeance religieuse à l'ordre politique. Ce refus n'est pas le refus de l'ordre politique en tant que tel. Les protestants français ont plutôt montré dans leur histoire une exigence de loyauté à la souveraineté légitime. Mais celle-ci n'est légitime que si elle respecte la liberté de conscience. Et ce quartier qui fut celui de Coligny et qui a été inondé du sang de ceux qui nous ont précédés dans la foi réformée en sait sans doute quelque chose. Il faut savoir dire oui à la cité et savoir lui dire non. Ce oui est absolument oui et ce non est absolument non. Il ne peut pas y avoir de moyenne arithmétique ou de tiédeur entre les deux. Mais une fois que l'on a dit ça, on est bien ennuyé car il faudra toujours se demander quand exactement il faut dire non. Et personne ne pourra le faire à notre place. Et ça n'est peut-être même pas forcément la vocation de l'Église que de prétendre pouvoir le dire. Soyons honnêtes, la tentation est toujours grande, passez-moi l'expression, de se payer le grand frisson de la résistance pour pas cher. C'est-à-dire quand on ne prend pas de risque physique, effectif. Sans doute que partir avec une Bible dans son sac à dos pour aller annoncer l'évangile de Dieu dans tous les pays du monde représenterait en revanche une réelle prise de risque physique. Partir avec sa Bible dans son sac à dos, non pas du tout pour asséner je ne sais quelle vérité unique aux autres, mais seulement donner la possibilité à une certaine conception de Dieu de s'exprimer, à chacun de s'inspirer de l'histoire et de tenter de discerner pour aujourd'hui ce à quoi il faut dire non, que ce soit dans l'ordre religieux comme dans l'ordre économique et politique. Nous savons depuis Montesquieu, ou plutôt celui-ci sut reconnaître que les anciens savaient déjà qu'il n'y a pas de bon pouvoir. Il est de la nature de tout pouvoir, de vouloir tout le pouvoir. Un bon pouvoir est un pouvoir qui a en face de lui un contre-pouvoir. Le pouvoir politique est un contre-pouvoir au pouvoir religieux et le pouvoir religieux un contre-pouvoir au pouvoir politique. Et au sein même de ces pouvoirs, il faut organiser des contre-pouvoirs. Aujourd'hui, c'est peut-être dans nos églises, dans d'autres lieux de culte aussi, que s'invente une nouvelle civilité, une nouvelle citoyenneté dont nos pays et notre monde ont tant besoin. Ce dynamisme religieux n'est pas l'abolition de la laïcité à laquelle nous tenons tant. Cette laïcité est faite de liberté de conscience et de culte, d'égalité et d'autonomie réciproque des sphères religieuses et politiques. Ce dynamisme contribuera avec d'autres convictions philosophiques et en dialogue avec elles à lui donner une chair vivante et pas seulement être une neutralité formelle, même si juridiquement il faut que la laïcité soit une neutralité formelle. Alors vous qui êtes de passage à l'oratoire, j'ai envie de vous dire, mais revenez donc. Alors certains penseront qu'ils n'ont pas vraiment la foi, qu'ils sont pleins de défauts. Alors écoutez, à vrai dire, ça tombe plutôt bien, car il nous arrive de douter. Et nous pensons même que c'est un signe de bonne santé intellectuelle, morale et spirituelle que de douter. Quant aux défauts, nous en avons beaucoup. En écoutant la conférence de Patrick Cabanel, en écoutant les tables rondes, vous avez compris à quel point nous avons des qualités immenses. Vous avez lu aussi en creux les défauts qui sont les nôtres. Autrement dit, s'il vous arrive de douter, s'il vous avez des défauts, si vous êtes déjà gracié et pourtant toujours et encore pécheur, vous vous sentirez ici à la maison. Quand les pasteurs ont préparé la scène en souvenir de celui qui a dressé la table pour toujours, ils disent souvent « Venez, car tout est prêt ». Ici, avec les limites et les faiblesses qui sont les nôtres, nous faisons ce qui est en notre pouvoir pour qu'au nom de Jésus-Christ, tout soit toujours prêt pour vous. Et je ne peux pas, évidemment, ne pas remercier toute l'équipe de ceux qui ont tant travaillé pour que tout soit prêt pour vous, pour ces manifestations du bicentenaire. Mais en même temps que nous vous prions de venir à l'oratoire, nous voulons aussi que vous puissiez aller et venir. Et en écoutant Marc Pernaud hier dire quelque chose d'un peu déconcertant, je trouvais qu'il y avait là une définition toute simple, mais très parlante de ce que c'est que le libéralisme, au-delà des 3000 définitions théologiques qu'on peut en donner. Ceux qui se sentent chrétiens uniquement avec Internet, eh bien pourquoi pas, c'est très bien, on les laisse libres. Être libéral, c'est ne pas être offensé par la liberté d'autrui. Ils entretiennent des relations par Internet, ils vivent la fraternité peut-être en dehors du cercle de l'Église visible, cela ne nous choque pas. Mais nous sommes bien évidemment heureux que vous veniez dans une paroisse comme la nôtre, et ce que nous souhaitons, c'est que la seule chose qui vous retienne, ce soit Dieu seul et la fraternité qui en est l'expression. Je vous remercie. J'appelle Madame Dagoma.
Madame la représentante du préfet, Monsieur le président du conseil presbytorial de l'Oratoire du Louvre, Messieurs les pasteurs, Mesdames et Messieurs, au nom du maire de Paris, Bertrand Delanoë, que je représente aujourd'hui, je voulais simplement vous dire quelques mots, témoignage de l'amitié et du soutien de la ville de Paris. Que le culte de la cité est pour nous un moment important de rencontre et d'échange entre la communauté protestante et les responsables publics. Et pour tous les élus de Paris, c'est l'occasion de célébrer l'apport essentiel de la communauté protestante à l'identité et à la richesse, que ce soit culturelle ou intellectuelle, de Paris, qu'elle marque de ses valeurs humanistes. Pasteur James Woody, en nous interrogeant sur la phrase biblique « Souviens-toi de ton futur », vous nous indiquez que cela pose la question du souvenir, de la mémoire, bien sûr, mais en la mettant au service de la vie à venir. Eh bien, comme vous, je crois que réfléchir sur le passé pour éclairer le présent est fondamental puisqu'il permet l'espérance et la construction de notre futur, tant individuel que collectif. Pour nous, élus, responsables publics, l'importance de l'engagement au sein de la cité, ce lien profond qui unit la conviction à l'action, est exemplaire. Et c'est, je crois, ce à quoi vos trois journées de travail et de réflexion ont servi. Ce moment est aussi l'occasion de réaffirmer une conception de la laïcité fondée sur l'ouverture et le dialogue. La laïcité n'est pas la négation de l'existence des croyances et des spiritualités, mais bien au contraire leur égalité de traitement par l'État, dans l'égal respect dû à chacun et dont la cérémonie de ce matin est le symbole. Cette cérémonie, enfin, est particulière. Elle marque le bicentenaire de l'affectation de l'oratoire du Louvre au culte protestant, un moment très fort pour l'Église réformée de France et également pour l'histoire de notre ville, Paris. Ce culte constitue enfin une occasion de célébrer la grande beauté de ce lieu, très apprécié des Parisiens. Et la ville de Paris est très heureuse de participer de manière très importante aux travaux de rénovation qui vont donner une nouvelle jeunesse à ce magnifique endroit. Mesdames et messieurs, au nom du maire de Paris, soyez donc assurés de notre amitié et de nos présences à vos côtés pour toujours garder ces principes à l'esprit et préparer au mieux notre avenir commun. Je vous remercie de votre invitation et au nom de Paris, eh bien, je vous le dis très fort qu'on vous remercie pour ce que la communauté protestante a apporté.
Je vous demande de bien vouloir excuser le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui aurait aimé être parmi vous aujourd'hui, et donc je vais vous lire son message. Monsieur le Président du Conseil presbytéral, Messieurs les pasteurs, Mesdames, Messieurs, l'Oratoire du Louvre a célébré toute cette semaine le bicentenaire de sa dévolution au culte protestant. Les nombreux événements organisés ces jours derniers, la publication de l'ouvrage dirigé par Philippe Bronstein, le culte de ce matin, ont été l'occasion de revenir sur deux siècles de protestantisme à Paris. Deux siècles de vie spirituelle intense, ponctuée de débats passionnés. Deux siècles de dynamisme paroissial, dont l'élan se poursuit aujourd'hui, sous l'impulsion des pasteurs Woody et Pernaud. Deux siècles d'enracinement au cœur de Paris, au cœur de son histoire, au cœur de la police, de la cité. L'oratoire du Louvre ne s'est en effet jamais départi de choix théologiques forts qui, au-delà de l'eschatologie, n'ont pas négligé la vie vivante des hommes ni le sens de leur action dans la cité. C'est à cet ancrage dans la vie de la cité que je souhaitais rendre tout particulièrement hommage aujourd'hui. Tout d'abord, parce qu'il est source d'enrichissement intellectuel et spirituel. Le président de la République ne rappelait pas autre chose dans sa récente intervention au musée du désert de Mialet, en soulignant la contribution essentielle des protestants français à l'émergence de la liberté de conscience dans notre pays. Ensuite, parce qu'il contribue aussi au dialogue fructueux entre les cultes et les pouvoirs publics. Toute l'histoire de l'oratoire est le témoignage même d'un tel dialogue. Lorsqu'il prit la décision d'affecter au culte protestant cette ancienne chapelle royale, jadis tenue par les oratoriens de Bérulle, Napoléon souhaitait faire de l'oratoire du Louvre un des signes concrets de la réconciliation entre l'État et les cultes. Plus tard, au XIXe siècle, l'Église de l'oratoire a accompagné le mouvement de confortation des libertés publiques grâce à des personnalités comme celle du pasteur Monod et de son fils. Figure du protestantisme social et du dialogue interreligieux. Enfin, le classement de l'oratoire en 1907 au registre des monuments historiques démontra par l'exemple, 2 ans après la loi de 1905, qu'il s'agissait bien d'organiser la séparation des églises et de l'État et non pas leur opposition irrévocable. Sans aucun doute, l'oratoire du Louvre a contribué, au cours de ces 2 siècles, à l'émergence de ce qu'est aujourd'hui la conception française des rapports entre l'État et les cultes. Mais parallèlement, cet esprit de dialogue a permis aux fidèles et aux responsables du Temple de faire évoluer leurs pratiques, à mesure que la France entrait elle-même dans la modernité. Et cela, qu'il s'agisse de débats théologiques ou de l'ouverture régulière de l'édifice à des manifestations culturelles. L'exposition inaugurée mercredi en témoigne au moins autant que les travaux de restauration qui viennent de débuter. C'est dans un esprit somme toute assez proche que j'ai résolu depuis plusieurs mois d'initier un travail de réaffirmation des principes fondamentaux de la laïcité en France. Je souhaite défendre une conception ouverte et apaisée de notre laïcité, au sein de laquelle liberté de conscience et neutralité de l'administration se répondent pour garantir à chaque citoyen le droit de croire ou de ne pas croire, et à chaque croyant celui de pratiquer sa foi sans contrainte et dans le respect de tous. Remarquablement organisé par le Conseil presbytéral et son président, Philippe Gaudin, les rétrospectives et les discussions de cette semaine l'ont montré. L'oratoire du Louvre abrite une communauté tout aussi forte de ses croyances et de ses valeurs que riche de son ouverture à celle des autres. Je forme l'espérance que la pratique séculaire de dialogue et de tolérance qui habite ces lieux puisse servir de référence à l'évolution de la pratique de la laïcité partout en France dans les années à venir.
Bah écoutez, bon vin d'honneur, magnifique dimanche, le soleil est avec nous, voilà.